Donc avec Laurence Brisset, nous allons partir à la découverte d'un manuscrit écrit pour l'abbaye de Saint-Évroult au milieu du XIIe siècle. Ce manuscrit a été étudié par Annie Denery, maître de conférence à la Sorbonne, dans le cadre de sa thèse soutenue en 1987. Plus récemment, Marie-Noëlle Colette, directrice de recherche à l'École pratique des hautes études, lui a consacré une notice pour son catalogue Manot. La présentation que je vais faire se nourrit de ces deux précieuses études. Mon intervention s'articulera en trois points qui permettront d'avoir une première approche du manuscrit avant que Laurence Brisset ne poursuive le voyage musical. Pour commencer, je ferai une courte description du Troper Proser, puis j'évoquerai la notation musicale et enfin les éléments permettant de déduire que ce manuscrit est bien un manuscrit de Saint-Évroult. Le manuscrit contient 159 feuillets. La partie principale s'étend du feuillet 6 au feuillet 129 et comprend le répertoire pour la messe, essentiellement des tropes et des proses, ce qui vaut le nom de Troper Proser au manuscrit. Figure également un court incipitaire de chants de la messe, des traités musicaux ainsi que des additions. La partie principale du manuscrit, le Troper Proser à proprement parler, s'ouvre sur une très belle initiale pour le chant Te Pater Supplices. Ce répertoire pour la messe est un peu spécial car il comprend ce qu'on appelle des tropes, c'est-à-dire des chants auxquels on a ajouté un élément musical ou textuel afin de l'embellir. Par exemple, le Kyrie Tropé, Orbis Factor Rex, que l'on rencontre quelques feuillets après la très belle initiale que nous venons de voir. Habituellement, le Kyrie non tropé contient une triple acclamation, Kyrie eleison chanté trois fois, Christe eleison également trois fois, puis à nouveau Kyrie eleison trois fois. Ce Kyrie tropé comporte toujours cette triple acclamation, mais encastré dans un texte plus long. Dans les cases rouges, on peut retrouver ces acclamations qui n'ont pas toujours été notées en entier. Ainsi, la première fois, on peut lire « Kyrie eleison », mais seulement « Kyrie » pour les deux acclamations suivantes. Voici une interprétation de ce « Kyrie » sans les tropes. Et voici maintenant la transcription du Kyrie tropé dans son intégralité. Les tropes sont pleinement intégrées et soulignent la forme tripartite du Kyrie. Le chant s'ouvre par un trope, Orbis factor rex eterne eleison, roi éternel, créateur de l'univers, prends pitié. Puis vient la première acclamation, suivie d'un deuxième trope, Pietatis fons immense eleison, fontaine immense de piété, prends pitié. Suivi d'une deuxième acclamation avant un troisième trope, Noxas omnes nostras pele eleison, chasse toute notre faute, prends pitié. Le même principe, c'est-à-dire l'alternance d'un trope avec une acclamation, régit la suite du Kyrie, avec une petite exception à la toute fin, puisqu'après les trois tropes suivis chacun de leur acclamation Kyrie eleison, un quatrième trope, que l'on ne rencontre pas dans les autres manuscrits, a été noté. Et cum sanctis tui assidue simus in requie, eleison, eleison, et que nous soyons constamment avec tes saints dans le repos, prends pitié, prends pitié. Voici une interprétation de ce Kyrie tropé. Vous allez vous rendre compte que l'ajout de ces tropes allonge prodigieusement le chant. Cette particularité peut être étendue à l'ensemble de la musique liturgique composée pour une fête particulière. Au Moyen-Âge, l'embellissement d'une liturgie était aussi synonyme d'allongement. Et on l'a vu avec les jeux liturgiques. Qui dit jeu liturgique dit allongement de la liturgie. On va écouter seulement le début parce que c'est très très long. Les tropes étaient extrêmement répandues au Moyen-Âge. Le chant, comme l'éclairage, la paramantique, c'est-à-dire l'habillement du clergé, le nombre et la qualité du ministre du culte, la présence de l'encens et les objets précieux, notamment les reliquaires, tout ceci permettait d'accentuer la magnificence d'une fête particulière. Parmi ces grandes fêtes figuraient bien sûr les fêtes du temporal, c'est-à-dire celles liées à la vie du Christ, qui s'articulaient autour de Noël et de Pâques, mais aussi les fêtes du sanctoral, c'est-à-dire les fêtes des saints. Certains saints étaient fêtés dans l'ensemble de la chrétienté, je pense à Saint-Martin, l'évêque de Tours, fêté le 11 novembre, mais aussi à Sainte-Marie-Madeleine, le 22 juillet, ou encore à Saint-Nicolas, le 6 décembre. D'autres fêtes étaient bien moins répandues car elles étaient liées à l'histoire d'un établissement religieux particulier ou d'une région. La partie centrale du manuscrit s'organise elle-même en plusieurs sous-parties qui correspondent à des catégories de chants pour la messe. Après les tropes de Kyrie, on rencontre les tropes de Gloria, les réponses graduelles avec les Alléluia et les proses et quelques offertoires, les tropes de Sanctus et enfin les tropes d'Agnus. L'agencement du manuscrit suit la structure de la messe. Dans la messe, je ne vous apprends rien, on distingue deux catégories de chants. On commence donc par les chants de l'ordinaire. Ce sont les chants dont le texte ne change pas, il est identique toute l'année liturgique. La deuxième catégorie est formée par les chants du propre. Pendant les fêtes les plus importantes, on pouvait chanter une prose, une longue poésie mise en musique, dont la plus célèbre est peut-être Victime et Pascal Laoudès pour Pâques. Ces chants du propre varient pour chacune des occasions liturgiques, contrairement aux chants de l'ordinaire. Avoir en tête la distinction entre les chants du propre et de l'ordinaire permet de comprendre l'organisation du Troper Prosaire de Saint-Évroult. Le manuscrit ne comporte pas de trope d'introïque, et commence directement par les tropes de Kyrie, tropes de Kyrie, puis les tropes de Gloria. Après cette partie, on quitte les tropes pour les chants non tropés avec graduel, alléluia, prose et offertoire. Après cette partie centrale, qui est assez conséquente, on retrouve à nouveau les chants tropés de l'ordinaire, les tropes de Sanctus et enfin les tropes de l'Agnus pour terminer. Le credo n'y figure pas, car ce chant très long faisait très rarement l'objet de tropes. Et on n'a aucun trope de communion dans le manuscrit. Chaque début de ces sous-parties commence par une miniature plus ou moins travaillée. La première, celle qui ouvre le troper, et la partie donc des Kyrie, est particulièrement décorée, particulièrement travaillée. La deuxième, qui marque le début de la section des tropes de Gloria, est moins impressionnante. Le ou les scribes à qui l'on doit le manuscrit n'ont pas jugé nécessaire, de faire une décoration particulière pour le début de la section des chants du propre, qui commence avec le premier dimanche de l'Avent, Dominico Primo, De Adventu Domini, peut-on lire tout en haut du feuillet. En revanche, quelques feuillets plus loin, on trouve une initiale très ornée qui n'a rien à envier à la toute première initiale du manuscrit. Pourquoi avoir choisi de placer cette décoration à cet endroit? Tout simplement parce qu'elle marque le début d'une fête importante, Noël. Alors, j'ai dit le début, mais en fait, ce n'est pas le début exactement de la fête qui a été choisie, c'est un chant particulier, c'est la prose, Nato Canent Omnia. La prose pour le jour de Pâques, Fulgens Preclara, a elle aussi eu droit à une initiale ornée. Étrangement, le début des Sanctus Tropae ne comprend pas de décoration particulière, alors qu'on en trouve une pour le début des Agnus Tropae. Outre l'aspect décoratif qui transforme le manuscrit en une véritable œuvre d'art, la décoration des livres médiévaux, et tout particulièrement des livres liturgiques, permettait au lecteur de se repérer en indiquant les fêtes importantes ou les structures internes du livre, ces deux éléments se superposant le plus souvent. La notation musicale de la partie principale du manuscrit est une notation française caractéristique du milieu du XIIe siècle. Les notations les plus anciennes sont des notations adiastématiques, in campo aperto, c'est-à-dire qui n'indiquent pas précisément les hauteurs. Le missel normand du XIe siècle, conservé à la BNF sous la cote latin 14446, est un exemple de cette notation adiastématique. Les notes de musique sont écrites sous la forme de neumes et ne peuvent pas être lues sans connaître au préalable la mélodie, car les hauteurs ne sont pas précisément indiquées. On notera tout particulièrement l'absence de lignes et de clés qui ne permet pas de localiser les demi-tons. Le Troper Prosaire de Saint-Évroult, du milieu du XIIe siècle donc, comporte une notation musicale plus précise pour ce qui concerne les hauteurs. Contrairement à ce qu'on a pu voir dans le missel du XIe siècle, les neumes sont maintenant répartis sur des lignes. Deux lignes sont utilisées. Une ligne rouge pour indiquer la ligne de Fa et une ligne verte pour indiquer la ligne de Do. Outre ces deux lignes, deux lettres clés permettent de lire sans ambiguïté les hauteurs. Ici, un D est utilisé pour indiquer le Ré et un A pour indiquer le La. Si on regarde plus attentivement le manuscrit, on se rend compte que chacune de ces deux lettres correspond à une ligne tracée à la pointe sèche et qui, contrairement aux deux autres lignes en rouge et en vert, n'a pas été repassée à l'encre. De plus, plusieurs signes de bécard et de bémol ont été notés. Il est donc très facile de lire la notation de ce répond graduel pour la fête de Saint-Évroult. Si je lis les premiers neumes, on peut lire donc fa mi, fa sol, sol fa fa et ré mi ré, etc., etc. Il est donc facile de chanter directement cette mélodie sans avoir besoin de la connaître au préalable. Et ça, c'est un grand changement. Les caractéristiques que je viens de décrire sont celles de la notation musicale dite française, qui s'étend, d'après la musicologue Solange Corbin, qui lui a consacré sa thèse, dans la partie septentrionale de la France, à l'exception de la Bretagne. Au nord et à l'est, elle laisse rapidement place à la notation dite lorraine ou messine, alors qu'au sud du Poitou, elle s'effaçait devant la notation dite aquitaine ou à points superposés. On la rencontre également le long du couloir rhodanien jusqu'à Lyon. Au sein de la grande famille de la notation française, on arrive à dégager des spécificités locales qui correspondent à des sous-groupes. On parle ainsi de notation lyonnaise, de notation du Val-de-Loire ou de notation normande. Cette notation normande comprend des signes particuliers que l'on rencontre dans le troperprosaire de Saint-Évroult. Dans sa thèse, Annie Denery a fait une analyse fine de cette notation musicale et a mis en valeur les signes particuliers suivants. Un punctum, c'est-à-dire un signe pour une note seule, un peu ondulé par rapport au punctum commun. Sur la diapositive, j'ai indiqué en bleu le punctum commun et en rouge le punctum normand. Ce punctum normand est utilisé pour indiquer le demi-ton. Un mi, un si ou un la combiné avec un si bémol. Dans l'exemple que j'ai pris, le punctum normand est placé sous la ligne verte, la ligne du do, et indique donc un si. Un autre signe particulier se rencontre dans un groupement de trois notes descendantes. Ce groupement, formé d'une virga et de deux punctums, prend le nom de climacus et se rencontre dans toutes les notations françaises. Dans la notation normande, au lieu d'avoir une virga et deux punctums, comme dans le cadre bleu, en bleu, il arrive très souvent que l'on ait une virga, un punctum, et un dernier punctum en forme de virgule, comme dans le cadre rouge à droite. On a ici les deux exemples, climacus habituel de la notation française et climacus plus normand que l'on rencontre seulement dans les manuscrits normands. Ces caractéristiques notationnelles se retrouvent dans d'autres parties du manuscrit, à commencer par le cahier ajouté au début, et qui contient les incipits de l'introïte, de l'offertoire et de la communion pour l'ensemble de l'année liturgique. Ce cahier complète donc le répertoire musical du troperprosaire. Il est d'ailleurs fort probable que ces deux parties aient été associées très tôt, peut-être dès le XIIe siècle. Tout comme la partie principale du manuscrit, ces folios contiennent la fête de Saint-Évroult, placée entre la fête des Saints Innocents, le 28 décembre, et la fête de l'Épiphanie, le 6 janvier. Ce saint était habituellement fêté le 29 décembre, ce qui correspond donc à son emplacement dans le manuscrit. La présence de cette fête ainsi que les caractéristiques de la notation laissent d'ailleurs penser que ce cahier a également été réalisé dans le scriptorium de Saint-Évroult. Les traités musicaux reliés à la fin du même livre comprennent également une notation normande associée à la notation dite alphabétique dont j'ai mis un exemple ici. Initialement indépendants du reste du manuscrit, ces traités ont été reliés avec le reste de l'ouvrage à une date inconnue. J'en viens maintenant à mon dernier point. Quels sont les éléments qui nous permettent de savoir que ce manuscrit est bien un manuscrit de Saint-Évroult ? La notation normande, ainsi que la présence de la fête de Saint-Évroult au détriment d'un autre saint normand, semble pointer sans ambiguïté l'abbaye de Saint-Évroult. De plus, l'historien de l'art François Avril a mis en avant que les couleurs vertes et rouges, très présentes dans le manuscrit, étaient caractéristiques du scriptorium de Saint-Évroult. Le manuscrit lui-même contient des traces de son histoire. Sur le dernier folio du manuscrit, on peut lire un ex-libris du XIIIe siècle indiquant que le manuscrit appartenait à Saint-Évroult, « Iste liber est de Abbatia Sancti Ebrulfi ». Un autre ex-libris a été noté au XVe siècle, cette fois-ci au début du manuscrit. Le manuscrit semble être resté plusieurs siècles à Saint-Évroult, puisqu'il est mentionné plus tard dans le catalogue de la bibliothèque du monastère dressé par Don le Michel en 1632. En 1837, il est acheté par la Bibliothèque royale après être passé à Alençon. Dans ce manuscrit, parmi un large répertoire que l'on retrouve dans d'autres établissements religieux, bien au-delà de la Normandie, on trouve des chants propres au répertoire anglo-normand, voire peut-être même des chants composés à Saint-Évroult. Ceci est vrai pour les chants tropés, les Kyrie, Gloria, Sanctus et Agnus, mais aussi pour les proses. Ces proses normandes ou anglo-normandes ont été notées pour la fête de Saint-Évroult ou bien comme second choix après une prose plus ancienne et bien connue pour un saint dont le culte était plus diffusé. Parmi ces proses peu diffusées figurent Solennis et Rite d'Iès, la prose pour la fête de Saint-Évroult, qui reprend la mélodie d'une autre prose bien connue, elle. On trouve également ces proses peu diffusées pour d'autres fêtes, notamment la fête de Sainte-Marie-Madeleine. Il s'agit alors de deux proses, Laudum Christo et Gaudeat Filium. Cette dernière prose ne se rencontre que dans deux manuscrits, le Tropaire Prosaire de Saint-Évroult, mais également un missel de l'abbaye Notre-Dame du Bec de la seconde moitié du XIIIe siècle. Il existe en effet des parentés entre les répertoires de prose de Saint-Évroult, de Notre-Dame du Bec, mais aussi de l'abbaye Saint-Pierre de Jumièges. Et avant de conclure, je vais laisser la parole à Laurence.
Je vais parler un petit peu du rapport que j'entretiens avec la musique médiévale et le manuscrit de Saint-Évroult en particulier depuis ma casquette de musicienne et pas du tout de savante ni de musicologue, gens que je respecte infiniment et que je fréquente avec plaisir, mais voilà, c'est pas mon rôle ici, est vraiment celui d'un musicien, de ce qui va se passer lorsqu'un musicien passionné par le Moyen-Âge se retrouve en face d'un manuscrit, quels sont les choix qu'il doit faire et comment il va s'y prendre pour extraire de la matière pour monter un programme musical. Alors, je dirais que d'abord, il faut être très curieux quand on va vers des répertoires aussi anciens. Et on peut se poser la question de savoir si on est mû par un désir de retrouver, de restituer quelque chose, de chercher quelque chose d'authentique, ou bien si on est conscient qu'on va faire des hypothèses avec une grande part de subjectivité. Et je pense que, enfin en tout cas, pour ma part, c'est ma position. C'est-à-dire que j'essaye de savoir ce qu'il y a d'objectif dans le document qui est face à nous. Et dans ces choses objectives, ce que je suis capable de comprendre, parce que voilà, il y a des limites. Et à partir de là, quelles sont les choses subjectives et que je vais proposer comme hypothèse d'interprétation. Même pour de la musique écrite récemment, on peut pas imaginer que tout est contenu dans la notation. Même pour des notations extrêmement précises, on ne s'en rend pas toujours compte, mais il y a quand même une filiation par rapport à une tradition, par rapport à une culture. Et quand la filiation est interrompue, c'est assez difficile. On est vraiment obligé de faire appel à son imagination et de replacer les choses dans leur contexte. Voilà, parce que l'écriture n'est qu'une trace, elle ne peut pas lire la musique et lire exactement ce qui est écrit ne fait pas la musique. L'interprétation, c'est autre chose. Et ça, c'est intéressant de se dire que quand vous écoutez quelque chose, même si c'est quelque chose d'historiquement documenté, ça n'est pas une restitution d'un passé sonore. On ne peut pas prétendre à ça. Alors, évidemment, on cherche dans les plis du passé une vérité artistique. On la cherche, et bien sûr, on a énormément de questions, et il faut aimer les questions, parce qu'elles sont beaucoup plus nombreuses que les réponses. Ces musiques chantées en concert, c'est évidemment anachronique. C'est pas du tout des musiques faites pour le cadre du concert. Et ce sont pas des musiques qui étaient pensées et conçues pour s'enchaîner comme dans un catalogue. où certaines musiques se mettent en valeur et d'autres, se nuisent un peu, parce que si on enchaîne les polyphonies comme ça, par exemple, on finit par les rendre assez banales, alors que en réalité, qui a fait l'expérience d'écouter de très 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 longues psalmodies a fait l'expérience d'une incroyable ouverture au moment où l'antienne arrive. Et pareil, quand on chante un chant qui évoque l'arrivée de la lumière et le matin renouvelé du monde, quand on chante ça à l'heure qui correspond et qu'on voit la lumière arriver dans l'édifice, ça fait quand même un certain effet. La liturgie était tellement bien pensée que quand on s'en extrait pour aller vers le concert, on perd des choses. On en gagne d'autres, mais on en perd aussi. Donc le répertoire de ce magnifique manuscrit est monodique. Donc il est chanté soit à l'unisson, soit en solo. Et bien sûr, cette façon de prier où on associe le texte avec un chant est très puissant. Saint Augustin disait que la musique, c'était des nombres sonores, et qu'on pouvait s'appuyer sur leur perception pour contempler les réalités invisibles. Je suis pas sûre que dans le cadre d'un concert, on aille jusque-là. Après, le Moyen-Âge avait davantage que nous l'esprit de synthèse, et il savait unifier ce que nous divisons. Le monde des beaux-arts était universum, insécable, et la musique en était le centre. Les lois de l'harmonie, faites de nombres, de proportions et dictées par Dieu, régissaient l'univers entier dans un commun principe de beauté. La musique, donc, nombre sonore, exprimait la perfection du monde. Alors évidemment, moi je suis un peu musicocentrique, c'est clair, ça me plaît ce discours, mais il faut bien sûr penser à la musique dans son acception beaucoup plus vaste, hein. L'architecture obéit aux lois de la musique, le Moyen-Âge connaissait très très bien l'Antiquité à travers Boès et voyait le monde organisé avec le macrocosme, le microcosme et ses différentes échelles et ses lois de musique des sphères, de musique mondaine et de musique humaine. Donc nous, on est au tout bas de l'échelle, là, on est quand même objet créé par Dieu avec notre voix. On n'est pas un instrument créé par l'homme, mais on est quand même tout au bas de l'échelle et on s'évertue à imiter le chant des oiseaux et qui imite celui des anges. Donc disons que ça encourage à une certaine humilité. Outre sa grande beauté, ce manuscrit est quand même très abordable parce que, comme le disait Océane tout à l'heure, il est relativement simple à lire. D'une part, il est dans un très bon état de conservation. Et ensuite, on a affaire à des scripts qui ont le goût de la précision. C'est très rare qu'on soit guidé comme ça, autant pour les hauteurs que pour l'indication de la place des demi-tons et l'indication des fictas. Là, il y a vraiment peu de chances de se tromper, puisque il y a les deux lignes qui indiquent le fa et le do, et les lettres clés, plus la joue, comme disait Océane, de bécard ou de bémol. Ça enlève parfois certains choix, puisque par exemple pour les fictas, il y avait des règles. On pouvait obéir à des règles qui étaient soit des règles de nécessité, des causes nécessaires, qui, elles, sont assez objectives, puisque certains intervalles sont proscrits, comme le fameux triton, mais des règles aussi, beaucoup plus subjectives, qui sont les raisons de beauté. Alors, est-ce qu'on a la même perception du beau aujourd'hui? Est-ce que, voilà, dans un plein chant ou dans une polyphonie, c'est encore beaucoup plus difficile, parce que Il y a des tas de superpositions qui, nous, ne nous dérangent pas et qui étaient proscrites à l'époque. Donc, ces tropes qui embellissent la liturgie et l'augmentent, il faut savoir aussi que parmi les choses subjectives qu'on doit décider, il y a le débit qu'on va donner au chant. Et on sait que dans les grandes solennités, le débit était lent. Donc non seulement on ajoutait des tropes, on pouvait ajouter des tropes, des polyphonies, mais on chantait plus lentement pour donner plus de solennité à l'office ou à la messe. Ce qui fait que ça faisait des offices très très longs et qu'on partait dans une espèce de méditation musicale assez exceptionnelle. Donc je vous ai parlé des causes nécessaires et des causes de beauté, mais il y a encore beaucoup de choses qui doivent être opérées comme choix, et je dirais que une chose intéressante quand on recherche des choses pour nous guider dans l'interprétation, pour les instrumentistes en tout cas, on va avoir affaire à l'organologie, à l'iconographie, on va regarder comment est fait un instrument, etc. Eh bien, nous, les chanteurs, on a un instrument d'époque. C'est-à-dire que le larynx a assez peu évolué, on suppose. Hein. On suppose. Et la technique de souffle est quand même grosso modo la même. C'est-à-dire qu'on inspire, on expire à peu près comme on le faisait au Moyen-Âge. Et il y a peu de textes qui donnent des indications sur la technique vocale. Il y en a quand même, on en trouve chez Jérôme de Moravie, on en trouve chez Odon Rigaud, dont vous parliez tout à l'heure, dans ses visites pastorales, qui fait quand même une liste de ce qui ne se faisait pas et ou de ce qui devrait se faire. Et très intéressant pour nous dans les visites pastorales, c'est quand il parle des moniales, sans parler de choses où elles avaient des petits chiens ou des écureuils, où elles portaient des chemises qui n'étaient pas tout à fait adaptées aux circonstances. Elles chantaient parfois des motets, elles chantaient des cantilènes, elles chantaient avec des tropes. Elle farcissait la musique avec des tropes en français. Et ça, c'était vraiment interdit. Et pour qu'on interdise quelque chose, il faut que ce soit fait assez souvent. Sinon, on n'en parle pas. Donc, au cas où les femmes à l'église chantaient, elles chantaient même de la polyphonie, même si c'était pas toujours recommandé, on sait qu'elles chantaient. Et il y a d'ailleurs des très beaux manuscrits de fondation féminine avec de la musique polyphonique absolument merveilleuse. Et on imagine quand même que si elles possèdent ces manuscrits, c'est qu'elles en ont l'usage. Donc, il faut savoir que l'oreille humaine, elle perçoit les hauteurs, les intensités et les timbres. On a deux mécanismes dans la voix. Il y a un mécanisme qu'on appelle couramment, enfin mécanisme 1 ou voix de poitrine. C'est dans ce mécanisme que chantent le plus souvent les hommes. C'est une voix qui est proche de la voix parlée. Et les femmes, aujourd'hui, dans nos cultures, chantent plus souvent en mécanisme 2 ou en voix de tête. Un petit peu comme les enfants. Donc ça fait une différence d'octave entre les voix d'hommes et les voix de femmes. Après, le mécanisme 1 est aussi utilisé dans les voix de femmes, ce qui donne plus ou moins une tessiture comparable chez les hommes et les femmes. Ça a énormément d'impact sur ce qu'on entend. Parce que si on chante en voix de poitrine, donc en mécanisme 1, on utilise les cordes vocales sur toute la longueur et toute l'épaisseur. Et quand on monte, ça génère une tension et ça dégage une énergie. On poussé à l'extrême, c'est le contrut du ténor, où on pense qu'il est à la limite de la rupture. C'est vraiment... Et ça produit un effet spectaculaire et ça produit un effet physique. Si on chante en voix de tête une monodie, on ne va pas du tout avoir le même effet. Donc, est-ce que après, quand on fait de la polyphonie, par exemple, pour les femmes, on est vraiment obligé de chanter dans les deux registres. Pour les hommes aussi, mais les hommes, ils ont vraiment cette possibilité, on va dire, plus développée, d'avoir la base de l'édifice sonore avec quelque chose de puissant, des voix graves puissantes, qui s'amenuisent et qui peuvent utiliser soit les voix d'enfant, soit des voix de tête pour faire le haut de l'édifice sonore. Et on va avoir vraiment une pyramide sonore comme ça. Avec les voix de femmes, c'est un peu différent. À part certaines femmes qui ont vraiment des voix graves très, très puissantes, en général, c'est plus puissant en montant. Donc ça inverse un peu les polyphonies, ça quand même ça inverse un petit peu les équilibres. Donc il y a ce choix qui influence. Qu'est-ce qu'on fait avec le diapason? On voit bien dans ce manuscrit, on a vraiment une idée précise du rapport d'intervalle entre les notes. Donc on va vraiment savoir comment évolue la mélodie, mais de quelle hauteur part-on? Ça, c'est, est-ce qu'on décide de faire sonner haut? Est-ce qu'on décide de faire sonner grave? En tout cas, pour nous, on décide de faire sonner là où c'est facile. Donc, voilà. Je pense que c'était probablement souvent là ce qu'on choisissait. Mais c'est assez marrant de voir aussi quand même que les chantres ont été souvent critiqués par excès de vanité, parce qu'ils mettaient leur gosier en valeur, parce que ceci, parce que cela. Ça n'a pas tellement changé. Donc il y a la compréhension aussi du texte. Qu'est-ce qu'on va choisir comme prononciation? Ça quand même, ça donne une coloration musicale à ce qu'on fait. La connaissance des accents pour essayer de respecter la prosodie mise en musique. La hauteur joue aussi sur la compréhension du texte. C'est-à-dire plus c'est élevé, moins on comprend le texte. Le débit, donc, quel débit on va choisir, quels seront les silences. Est-ce que, par exemple, dans une longue phrase, ça, j'aimerais bien demander à ceux qui pratiquent le chant grégorien dans le cadre de la liturgie aussi, dans les longues phrases, est-ce qu'on se permet de respirer alors que la phrase grammaticale n'est pas finie, ou est-ce qu'on doit vraiment aller au bout du souffle et du coup accélérer le débit pour pas couper par exemple dans Bach, c'est une question qu'on se pose tout le temps. Est-ce qu'on respire avec la musique ou est-ce qu'on respire avec le texte? Parce que c'est pas toujours, ça correspond pas toujours. Bach ne s'occupait pas beaucoup des pauvres capacités respiratoires de ses chanteurs, donc il faisait comme il pouvait, je pense. Mais on parlait de trope tout à l'heure, donc je vais vous faire écouter un trope, mais là c'est un trope anglo-normand et où les interpolations sont polyphoniques. Donc il y a un bon bout du Gloria qui est fait en plein chant et quelques tropes en polyphonie. etc. C'est assez long. Donc là, on voit les choix qu'on a faits. C'était... Alors, ça peut paraître un peu aigu. En fait, on a choisi par rapport à notre capacité de faire la voix grave dans la polyphonie, au-delà de laquelle on n'est plus audible. Donc, à partir de là, c'est une polyphonie qui est déjà assez étendue. Et voilà. Alors, on s'intéresse énormément, évidemment, aux impacts esthétiques des choix de techniques vocales sur l'interprétation. On a entendu tout à l'heure le Kyrie tropé que nous faisait écouter Océane, où là, on chante en voix de poitrine. Et c'est une technique qui rapproche du chant traditionnel, où les femmes chantent dans leur voix grave. Bon, là, il n'y a pas de polyphonie, donc c'est tout à fait possible. Ça donne vraiment autre chose. On peut se poser la question de savoir si on favorisait ou non l'homogénéité du timbre, comme dans nos critères esthétiques actuels. Quel rapport on avait avec la nasalité? Est-ce qu'on aimait? Est-ce qu'on n'aimait pas? Est-ce qu'on aimait que ça soit... Voilà. Il faut savoir que la technique vocale d'aujourd'hui, elle est vraiment influencée par le fait qu'on doive avoir une certaine projection pour pouvoir être entendu avec des orchestres ou dans des grandes salles, etc. C'était pas du tout le problème à l'époque, puisque le chant, il est vraiment lié à l'acoustique et que l'acoustique fait partie de la musique. C'est-à-dire que le chanteur met l'édifice en vibration et s'il chante avec justesse les intervalles dits parfaits, c'est-à-dire quinte, quarte, octave, il met l'édifice en vibration par le jeu de l'empilement des harmoniques. Ça donne vraiment une puissance. Il n'y a pas besoin d'une immense projection. Au contraire, une voix type opératique qui va chanter dans une acoustique d'église va saturer assez facilement l'église. Ça va... Ou alors, à moins qu'elle soit vraiment très grande. Donc, il y a ça, il y a le fait de faire des sons gutturaux aussi. Là, Jérôme de Moravie, il en parle. On ne sait pas très bien à quoi ça correspond. Apparemment, ce n'est pas très apprécié. Il y a les ornements. Est-ce que dans la notation pneumatique, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient ressembler à des ornements? On parle des répercussions. Quand on voit les coulissements, est-ce que ça correspond à quelque chose vocal? Est-ce que c'est juste des nœuds de conduction? Ou est-ce qu'il y aurait eu quelque chose pour que le scribe ait vraiment... prennent la peine de trembler sa plume, il se passe quelque chose, probablement. D'ailleurs, dans le manuscrit de Saint-Évroult, les coulissements, ils disparaissent souvent. Par exemple, quand il y a un degré mobile, un demi-ton, mi-fa ou transcrit mi-fa ou si-do, le si va se stabiliser sur le do. On a do-do, très souvent dans les pièces qu'on a transcrites, on a ça. Sinon, c'est assez proche. Il n'y a pas d'énormes variations par rapport à la musique notée dans d'autres sources. Que vous dire d'autre? Ben, que dans le programme qu'on va faire, on a choisi d'associer des pièces de Saint-Évroult avec des polyphonies anglo-normandes. Parce que d'abord, on résiste jamais au plaisir de faire de la polyphonie. Et puis au niveau... c'est très... Il y a un répertoire absolument magnifique, pas toujours très connu. Il y a eu énormément d'échanges, en tout cas, disons, depuis l'école Notre-Dame vers la Normandie et vers l'Angleterre. Après, il y a eu un espèce de développement idiomatique avec des choses que les Anglais ont faites et qui ne se sont faites nulle part ailleurs, c'est classique chez les Anglais. Ils conduisent à gauche dans les motets et dans les motets, oui, par exemple, ils mettent le plein chant, ils le mettent au milieu Et dans des motets conduites, ils ne mettent pas à la base de l'édifice. Je vais vous faire écouter. Et puis, ils adorent les tierces et les sixtes, alors que nous, sur le continent, on est très quarte et quinte. Mais voilà. Et puis après, c'est revenu, mais il y a toujours eu un échange magnifique et très riche de chaque côté de la Manche. C'était vraiment une... même lorsque les pays étaient en guerre, il y a eu beaucoup d'échanges culturels et il y a de très belles sources musicales, comme ce petit Paradisi Porta. Alors comment je vais l'avoir ? Vous allez entendre d'abord le plein chant et ensuite le plein chant qui reste au cœur de la polyphonie, vraiment au cœur, au centre, et sont composés la voix haute et la voix grave. C'est assez émouvant d'imaginer ces pièces chantées dans le secret des couvents et elles sont anonymes pour la plupart. Il faut attendre le 14e pour avoir l'apparition de la notion d'individu avec le sceau, enfin pas S.O.T. hein, parce que ça date d'avant je crois, mais le sceau, la signature et le portrait. Avant, c'est anonyme et ça s'adresse pas à un public, on va dire. Voilà. Et pour terminer, je vais vous faire écouter un motet, un bout de motet, qui, alors lui, est dans l'ordre habituel du motet, c'est-à-dire que le ténor est à la base de l'édifice. Et il y a deux voix qui se superposent et c'est aussi une pièce anglo-normande. Entre autres choses, j'ai parlé des tierces, des sixtes et puis des pièces un peu hybrides, mais il y a aussi dans la musique anglo-normande de très belles pièces avec des textes anglo-normands et qui est une variété de français qui a émigré avec Guillaume le Conquérant lors de la... Alors, nous, on dit la conquête, ils disent l'invasion. Et puis, qui est restée quand même la langue de culture jusqu'à la fin de la guerre de Cent Ans. Donc, c'est très, très long. Très, très long.
Voilà. J'espère que ça vous ouvrira l'appétit.